Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique. L'homme politique qui s'intéresse à la politique ne fait pas de politique pour gagner de l'argent. Ou bien, s'il fait de la politique pour gagner de l'argent, ce n'est pas un homme politique, mais simplement un homme d'affaires qui a trouvé une autre voie que la voie ordinaire des autres hommes d'affaires. Comment peut naître un scandale, un vrai, un scandale politique? Et qu'y a-t-il toujours à l'origine d'un scandale? Il faut des noms qui accrochent et qui entraînent d'autres noms, des gens célèbres, en poste. Et puis des secrets intéressants et des papiers qui accuse. Le propos du conférencier que l'on va entendre n'est pas de relater l'historique de tous les scandales. Il lui faudrait plus de temps. Et ce n'est pas son projet, et il ne souhaite pas ajouter quoi que ce soit à l'atmosphère alourdie des temps où nous vivons. L'époque, la conférence est diffusée sur la chaîne nationale le 15 mai 1950. Le titre de la conférence est « Quand le scandale devient une arme politique », et le conférencier se nomme François Mitterrand.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il y a déjà bien longtemps de cela, c'était le samedi 19 novembre 1892, un homme seul sortait de la rue Marbeuf. Il était tard, minuit environ. Personne. Où aller? Qui saluer? Quelle main serrer? Quel visage implorer? Quelle parole entendre? Cet homme était seul ce soir-là, et c'était le dernier soir qu'il allait vivre. Il lui fallait sans doute la complicité des ombres, l'amitié du silence. Mais personne ne le saura jamais, car le baron Jacques de Reynac allait mourir. En effet, le lendemain matin, dans un hôtel particulier de la rue Murillo, au numéro 20, le valet de chambre Kermadec trouvait un cadavre, c'était celui de son maître. Pourrait-on croire qu'immédiatement la police, le parquet, vont se saisir de cette affaire? Un homme qui meurt, quelle importance cela a-t-il? Mais cet homme, précisément depuis 4 jours, était l'objet d'une information. Son nom était déjà prononcé dans les milieux que l'on appelle informés. Des petits journaux de chantage l'avaient cité. On disait « Reynac, c'est Panama ». Et voilà comment... 48 heures plus tard, un commissaire de police qui s'appelait Clément vint à l'hôtel particulier dont je parlais et s'informa. Tout Paris savait, mais Clément était un policier discret. Une fois qu'on lui a confirmé la nouvelle, il se retire. Pourrait-on décemment troubler le silence des maisons mortuaires? 4 jours se passent. Enfin, le parquet pense que tout de même cet inculpé ainsi disparu pourrait receler quelques secrets intéressants. Alors, on s'en inquiète et on saisit des papiers tout en reconnaissant au neveu du disparu le droit et même le devoir d'en prendre connaissance auparavant. Ainsi se trouvent réunis le respect du mort et celui de la famille en deuil. Sans doute, le scandale de Panama, ce n'est pas seulement cela. Mais c'est ainsi qu'un scandale devient tout d'un coup suffisamment spectaculaire pour qu'un pays tout entier, s'intéressant soudain à ses affaires financières apparemment obscures, pense « il y a scandale, le régime est pourri, il faut réagir, éliminer les hommes au pouvoir, changer quelque chose ». Pourtant, le 17 novembre, 2 jours avant ces événements, le baron de Reynac, qui était-ce? Sinon un personnage estimé, réputé de bonne camaraderie et d'excellente fréquentation. Il revient de la Côte d'Azur où il a passé une semaine. Qu'a-t-il fait là-bas sinon ce que beaucoup font? Il s'est distrait. Ceux qui en ont la possibilité ont fait comme lui aussi, il a joué. A-t-il gagné? A-t-il perdu? Ce qui est certain, c'est qu'il a l'habitude de jouer quitte ou double, mais pour lui, cela allait se savoir un peu plus tard, quitte ou double, c'était un jeu à la vie, à la mort, La pièce saute, elle retombe, c'est la mort. Le scénario pourrait être répété chaque fois que l'on se retrouve devant l'un de ces événements qui marquent l'histoire de tous les régimes et que l'on appelle des scandales. Mon propos n'est pas de relater devant vous l'historique de tous les scandales. Il faudrait d'abord plus de temps que celui dont je dispose, et puis, je le répète, ce n'est point mon objet. Je n'ai pas non plus l'intention d'ajouter quoi que ce soit à l'atmosphère alourdie des temps où nous vivons. Je voudrais pourtant essayer de donner mon explication personnelle, non pas sur les mystères policiers que j'ignore autant que quiconque, mais sur le sens qu'ils prennent dans le régime qui nous dirige. Des événements plus récents, datant de 1934, ont fait lever aussi en leur temps les foules. C'était le scandale Stavisky. Et de même, on pourrait retrouver là, après des jours et des jours, des mois et des mois, un homme qui, par on ne sait quel génie d'illusionnisme, a traversé les sociétés, créé un monde de toutes pièces, de la force de ses mains ou de son intelligence. Et cet homme, devenu subitement un proscrit, sans nom, sans identité, sans passé et sans avenir, et qui s'en va vers le chalet du vieux logis. Ses pas laissent des traces dans la neige, mais ses actes vont laisser des traces infiniment plus profondes dans le monde où il a vécu. Tout à l'heure, pour lui aussi, ce sera la dernière partie de cartes, car il jouera aux cartes jusqu'à 3 heures du matin, avec une jeune femme et l'un de ses amis, l'un des derniers fidèles, sans doute. Cet homme, Serge Alexandre Stavisky, lorsque dans la matinée on frappera à sa porte, n'aura plus qu'un recours, le silence après la détonation. Ainsi pourrait-on mesurer les grands événements qui traversent la société politique. Un homme meurt, il disparaît. Et soudain, comme une nuée s'abattant sur les cadavres gisant à travers les étendues désertiques, sous un soleil impitoyable, toujours, dans le ciel, rôde un oiseau au bec très long, très dur, et qui a besoin de se nourrir. Alors on se précipite, un scandale, voilà l'aubaine. Il faut d'abord, à l'origine d'un scandale, une part de mystère. Généralement, ce mystère tourne autour d'éléments fort simples. Qu'il s'agisse de l'impunité d'un coupable ou de la condamnation d'un innocent, aussitôt le vieux sentiment de justice qui anime notre peuple s'éveille, s'inquiète. Ce coupable, qui continue de vivre comme ses concitoyens, protégé par des lois qui devraient le condamner, ce n'est pas normal, c'est bien la démonstration que le régime fonctionne mal. Le mystère, c'est la disparition de ce baron dont je parlais. En 1893, c'est la fuite de Cornelius Hertz. C'est le document fabriqué dans le secret des cabinets, ou bien qu'on brûle. C'est le personnage que tout le monde cherche et que personne n'atteint. Une part de mystère. Pourquoi cet homme échappe-t-il aux lois qui frappent chaque citoyen dans un pays ? Telle est la question qu'il faut poser. Sitôt que quelqu'un y échappe, le spectateur, celui qui appartient à la foule, celui-là s'inquiète. Il renifle quelque chose qui ne lui déplaît pas, dirais-je, qui aurait même tendance quelquefois à lui plaire, quelque chose d'anormal. De quoi on pourra parler? Qui pourra animer les conversations du soir ou du matin? Et qui permettra aussi d'éprouver de légitimes indignations? Il est si intéressant de pouvoir s'indigner contre les scandales des autres, cela évite parfois de s'interroger sur sa propre conscience. Et puis, entrent en jeu dans les scandales tant de pouvoirs, l'administration, le gouvernement, la police, la justice, autant de divinités du monde moderne. Qui n'éprouverait alors un plaisir secret d'avoir, comme toujours, une divinité frappée, souillée, qui disparaît ou qui revient ? Mais qu'au passage, on a eu le temps de frapper du pied. Mais il faut une autre condition. L'enjeu doit être suffisamment important. Combien d'escroqueries, de concussions, de vols qui malheureusement sillonnent et traversent l'histoire de tous les temps. Mais cela ne suffit pas. Il faut, je le répète, pour qu'il y ait une affaire, que l'enjeu soit suffisamment important. Pour ceux qui, plus âgés que moi-même, ont pu vivre en 7 ans, le krach de l'Union générale frappait des milliers de petites gens. La défense de l'épargne, c'est important. Les bons de Bayonne, sans doute, ne touchaient qu'un nombre assez restreint d'intéressés, mais c'était un exemple fâcheux qui pouvait faire craindre pour d'autres. Et pour peu qu'un crédit municipal permît à son directeur d'agir de cette sorte, cela devait permettre aussi à tous ceux qui étaient amateurs des crédits municipaux d'éprouver quelque inquiétude pour leurs propres affaires. Ainsi, et surtout en démocratie, chacun a tendance à généraliser le cas du voisin et l'inquiétude gagne. L'enjeu peut d'ailleurs être différent. Il peut être par exemple la défense nationale, affaire Dreyfus. Un capitaine, petit capitaine ignoré, mais capitaine d'état-major, est accusé d'avoir trahi son pays au bénéfice précisément du pays le plus abhorré. Le vainqueur de quelques décades auparavant, l'Allemagne. De plus, ce capitaine est juif. Si le seul scandale de la trahison, ce qui n'est déjà pas si mal, permet de régler quelques vieux comptes, après tout, qui ne pourrait se féliciter de la coïncidence? C'est ainsi que la défense nationale est, par un secret mystère, une sorte de défense inventée, intranational, condamne des catégories ou des hommes considérés par certains comme dangereux pour une certaine conception de la patrie. Alors, puisque ces hommes sont là et qu'ils sont pris la main dans le sac, tout est permis. Une autre condition me paraît nécessaire pour que le scandale devienne une affaire et puisse donc servir le cas échéant d'arme politique. Les personnes de ce genre d'affaires doivent pouvoir engager plus qu'elles-mêmes. Peu importe à la presse qui pourrait s'y intéresser, peu importe au milieu spécialisé, peu importe aussi à la grande foule qu'un monsieur dont le nom ou l'activité demeure ignoré ait été pris en train de falsifier je ne sais quel document. Ce n'est pas suffisamment spectaculaire pour que la quatrième condition dont je vais vous parler ait une possibilité de s'exercer. Il faut que les noms ainsi cités puissent engager plus qu'eux-mêmes. Et quoi donc, mesdames et messieurs, il faut que les noms puissent engager le régime même. Et c'est pourquoi il sera si facile de trouver tant d'exemples. Lorsque les noms n'y seront pas et que les 3 autres conditions seront remplies, eh bien ces noms, on les inventera. L'état de crédibilité ainsi créé, l'atmosphère publique étant exacerbée au point d'admettre des conditions d'enjeu, défense nationale, défense de l'épargne, je ne sais quoi encore, la part de mystère est en fait. Un pouvoir occulte devant exercer nécessairement une opposition, la quatrième condition est prête à agir. Quelle est-elle ? Ah, cette opposition-là ne respecte guère les formes du régime. Pensant que tout est bon pour faire sauter la chaudière, elle a besoin de mettre, même lorsqu'ils n'y sont pas, des noms qui engagent le régime. Car si les hommes sont ainsi faits qu'ils se passionnent pour les idées, il faut aussi que ces idées prennent des visages. Alors, il faut des noms. On a pu citer, je le dis sans rappeler autre chose que le fait historique, au cours de l'affaire de Panama, le nom d'un ancien président du Conseil, d'un ministre des Finances, d'un président de la Chambre des députés, de 2 ou 3 anciens ministres, de 10 ou 15 parlementaires. Voilà des noms qui accrochent. Sans doute, un certain nombre d'entre eux pourront faire la démonstration évidente qu'ils ne sont point coupables. mais ensuite seulement. Sur le coup, l'opposition est là qui peut recueillir le bénéfice. Il suffira, je pense, de ne pas exagérément insister sur des événements fort présents à votre esprit pour savoir que de la même manière, sur des dires tout à fait fantaisistes, on peut mêler qui que ce soit et de fort important, qui, dans ces conditions, saurait y échapper. Le joueur qui va jouer ne joue pas pour gagner de l'argent. Il joue pour jouer. L'homme politique qui s'intéresse à la politique ne fait pas de la politique pour gagner de l'argent. Ou bien, s'il fait de la politique pour gagner de l'argent, ce n'est pas un homme politique, mais simplement un homme d'affaires qui a trouvé une autre voie que la voie ordinaire des autres hommes d'affaires. Dites-vous bien que pour la plupart de ceux qui eurent à diriger ce pays, et tous les pays, et sous tous les régimes, leur passion fut celle au moins de leur pays, de leur peuple, des grands intérêts nationaux ou internationaux à embrasser. Peut-être la possibilité pour eux d'inscrire leur nom dans la marche de l'histoire, mais non, mais jamais, ou rarement. Et si la chose arrive, c'est par une erreur du destin, rarement par la passion de l'argent. C'est pour ça, c'est pourquoi tous ceux que vous verrez rôder autour de ce genre d'affaires sont généralement des hommes politiques ratés. Vous les trouverez à chaque scandale. Ils interviennent, font des démarches. Pensez-vous, quelle misère! Ils vont faire des visites dans les ministères, ils attendent dans les antichambres pour voir le ministre et présenter humblement, avec un peu de gêne sans doute, je le pense, je le crois, celui qu'il traîne et qui est encore une sorte d'inconnu avec une tête comme celle des autres, mais qu'il sera plus tard celui qu'on verra sur toutes les éditions spéciales, mais encore modeste et humble à côté, car il ne sera même pas la vedette du scandale. Il aura tout raté, celui-là. Cela n'empêche qu'à tous les coups, on le retrouve, il est là. Le trouvera-t-on plus facilement parce qu'il s'agit d'une démocratie, où un peu n'importe qui est appelé à représenter le peuple? Et qui est n'importe qui, mesdames et messieurs? Est-ce vous, est-ce moi? Qui est n'importe qui et qui le définira? N'importe qui sera celui qu'a désigné le peuple assemblé à un jour donné sur convocation du ministre de l'Intérieur? Ou sera-ce celui désigné par un maître tout-puissant qui aura besoin précisément de n'importe qui pour mieux faciliter les choses? Quelle est la forme du gouvernement qui saura mieux choisir ce n'importe qui fera les petites affaires et compromettra par là même le régime qu'il a prétendu servir? Qui pourrait apporter une réponse à cela? Je ne le sais. Seulement, nous sommes en 1950. Quelques années, 3 ou 4 ans après la naissance d'un nouveau régime. D'une république nouvelle. La quatrième. Croyez-vous que la naissance d'un régime puisse se faire avec autre chose que des fées chargées d'apporter tous les dons du bonheur? Il y a nécessairement aussi celles qui n'attendent que la première chute, la souffrance et la mort. Celles aussi, et nombreuses, qui attendent la suite. Il y a encore et malheureusement, comme toujours, les financiers illusionnistes, les naïfs, les négligents et les maîtres chanteurs. Il y a aussi toute cette foule dont j'ai parlé. Pourquoi n'existerait-elle pas aujourd'hui comme hier? Je vous rappellerai, et vous vous en souviendrez sans doute, l'exclamation de Louis-Philippe quelques mois avant sa chute, lorsqu'on lui a pris l'affaire Teste-Cubière. Teste était un ancien ministre, que l'on avait écarté du gouvernement parce qu'il faisait un peu véreux. Mais pour lui donner une compensation, on l'avait nommé président à la Cour de cassation. Ce monsieur Teste, ce n'est pas celui de Valéry. Ami du général de Cubière, ancien ministre de la guerre, il devait accepter 94 000 francs pour qu'une concession en matière de mine de sel fût accordée. Scandale. Le président Paquier, qui dirige les débats, voit le roi et lui dit, Monsieur le président, vous m'avez pris un ministre, voilà que vous m'en prenez un deuxième. Et moi, j'ai mis 17 ans à remettre le pouvoir en place. En un jour, en une heure, vous le mettez par terre. Déjà, dans les quartiers de Paris, lorsque le duc de Montpensier se promène du côté des portes, on crie à bas les voleurs. Et l'on met des pancartes, on demande une ouvrière sans travail pour nettoyer une cour et deux chambres. Quel régime ? Quelle forme d'institution ? Et qui nous fournira la preuve ? Faudrait-il énumérer Morny, Jecker et tout ce que vous savez des régimes qui, de l'autre côté de nos frontières, ont crié aussi à bas les voleurs ? Ces régimes qui se sont installés jusqu'au jour où un grand coup d'épée a permis de découvrir à l'intérieur des corps infectés aussi la pourriture et la gangrène. Je me souviens de cette déclaration de Jules Guesde dans un manifeste aux travailleurs de France. Les scandales qu'exploitent avec rage les ennemis de la République n'ont rien à faire avec la forme du gouvernement.
C'était les grandes conférences dans le cadre des conférences des ambassadeurs, quand le scandale devient une arme politique, par François Mitterrand. Première diffusion sur la chaîne nationale le 15 mai 1950. Vous pourrez réécouter cette conférence en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.